aujourd'hui, Antenne Doc vous emmène en balade. Et c'est pas dans n'importe quel endroit, c'est du côté de Luzèche. Et je suis en compagnie de Monsieur Gilbert Brouquil. Bonjour.
Bonjour.
De l'association L'Intracade. Et ce monsieur, eh bien, il a l'habitude de faire des visites de Luzèche. Alors, on va commencer par vous parler de la chapelle Notre-Dame de Lille. Et dans cette petite balade, vous m'avez emmené au bord du Lot pour commencer, eh bien, cette visite. Et pourquoi ?
Eh bien, parce que le Lot était une rivière navigable par grandes eaux. Et nous sommes ici, justement, sur le bord du Lot, devant un gué qui a le triste nom du gué des Trépassés. Ce gué des Trépassés, évidemment, est lié à la chapelle qui est dessus, la chapelle de Notre-Dame de Lille. Et qu'est-ce qui se passait ? Il y a eu toujours du commerce avec des embarcations qui descendaient le Lot. Pourquoi ? Pour amener du bois, pour amener le charbon qui était dans la région de Descazeville, et puis aussi notre fabuleux vin de Cahors. Pourquoi le gué des Trépassés ? Parce que un peu plus bas, nous avons un rocher qui dépasse, qui s'appelle le fameux roc du Perdigal, le roc du Perdreau, si vous voulez, en français. Et il y a quelques balmes, ce qu'on appelle les balmes localement. Ce sont des rochers qui effleurent dans l'eau et sur lesquels les embarcations s'encastraient et perdaient leur équipage, parce qu'il fallait penser qu'avec une gabarre, il y avait toujours 4 ou 5 personnes. Et comme ça se passait pendant les grandes eaux avec un fort courant, eh bien, les pauvres gens qui étaient là-dessus, eh bien, ils mouraient. Et ils se retrouvaient bloqués ici, sur ce point haut, qui est le gué des Trépassés. Alors, pourquoi il y avait ce gué ? Si vous allez au-dessus, là, vous avez une pierre levée, un dolmen. Et ce dolmen était un lieu de passage, parce qu'on en retrouve. Bon, ça, ils ont été détruits au fur et à mesure des temps, les dolmens. Mais on en retrouve un peu sur Albas, après on en retrouve là. Et puis il reste celui-là de la pierre levée. Et quand vous êtes à ce dolmen, on voit cette combe-là où le ruisseau coule en ce moment-là. Et les voyageurs descendaient par là, traversaient ce gué. Alors traversaient plus ou moins, en ce moment on voit que l'eau est paisible. Et des fois, ils étaient en perdition. Et alors quand ils étaient en perdition, évidemment, ils pensaient toujours à des divinités. Et ce coin où on va aller tout à l'heure, là-haut à Notre-Dame de Lille, c'est un coin de sérénité. Et là, ils ont commencé par faire un temple. Alors, d'après les registres qu'on a, il y a eu déjà un temple gallo-romain qui était là, édifié là, pour une divinité gallo-romaine. Et ensuite, bon, mais la christianisation est venue, Notre-Dame de Lille est apparue, et puis ce temple est devenu une chapelle en l'honneur de la Vierge ici qui est apparue.
Alors, on va repréciser avant de rentrer un peu plus dans l'histoire de cet édifice, la chapelle. Il faudrait peut-être dire un mot sur justement sa situation géographique. Vous venez de parler du Lot, oui. Mais en fait, on est sur une presqu'île ici.
Oui, et alors pourquoi on est sur une presqu'île et pourquoi Notre-Dame de Lille ? Il faut penser que le Lot, il arrive de Cahors. Il contourne, il fait une forme un peu comme une forme de méandre, une méandre qui contourne avec un détroit au milieu qui est environ au niveau de la tour de Luzèche, vous voyez. Et au-dessus, vous avez l'Impernal, dont j'ai un ami qui vous parlera tout à l'heure de toute l'histoire de l'Impernal. Et il faut penser qu'à l'époque des Gabarres, quand les navires descendaient de Cahors, Luzèche était l'étape de deux nuitées. Parce que le tour de l'île, 4 km, était beaucoup plus dangereux que le reste du Lot. Enfin, il y a d'autres endroits. Mais pour faire 4 km, ils mettaient la journée parce qu'il y avait ces fameux rochers et tout ça. Donc, d'un côté, ils se mettaient du côté du rocher de la Trincade quand ils arrivaient à Cahors, d'où l'origine du nom de l'association. Et ils redescendaient et se retrouvaient après sur le côté vers la Douve. Il y a encore les cales pour amarrer les gabarres, donc ils se retrouvaient là. Donc c'était les étapes de deux nuitées toujours à Luzèche, dont la difficulté de la navigation sur cette partie du Lot.
Au XIVe siècle, en fait, ici, c'était une véritable île.
Oui, oui, oui. Alors, si on remonte là-haut, on voit une légère dépression. Et quand le Lot était en crue, il y avait un fossé qui se garnissait, qui se remplissait autour de Notre-Dame de Lille, et elle était isolée du reste de la terre. Mais déjà, ici, on est dans une presqu'île. Hein, le tour de l'île, c'est une presqu'île, qui était séparée juste par un petit rocher qui faisait 20 mètres, à peu près une vingtaine de mètres, au niveau de la place du canal.
Alors, on va profiter de vos connaissances hein, et je veux bien que vous nous racontiez les légendes et puis les réalités sur l'origine de la chapelle.
Bien, les légendes, il y en a une qui est inscrite à l'entrée de la chapelle. Ça a été un jour d'orage de l'autre côté, là. Vous voyez, de l'autre côté, là. Cette Cévenne là, qu'on voit, ça s'appelle la Cévenne des Théolettes. Et là-dessous, il y avait un rocher, une grotte. Et un fort orage, il y a eu des voyageurs qui se sont abrités sous ces rochers-là. Et puis ils ont vu une dame arriver, qui elle aussi voulait traverser, mais eux, ils étaient pris dans l'orage. Elle a défait son tablier. Ce tablier a pris la forme d'une embarcation. Et puis, magiquement, elle a traversé le Lot comme ça, et puis elle est apparue comme ça aux yeux des agriculteurs qui étaient là. Ils ont pensé de suite à un miracle. Après, il y a eu d'autres légendes aussi. Vous nous disiez quoi ? Bon, c'est la Vierge, je ne peux pas vous dire. Pour moi, c'est Notre-Dame de Lille. Nous sommes bons Luzécois. C'est notre Vierge à nous, à Luzèche.
Donc ça date de quand à peu près ?
Ça remonte dans la nuit des temps, ça. Ça devait remonter certainement dans le haut Moyen-Âge, puisque c'était à l'époque de la christianisation.
Alors on va dire quelques mots aussi sur cette chapelle, hein, parce qu'elle a une grande histoire maintenant, y compris celle d'être un lieu de pèlerinage.
Oui, oui, oui. Cette chapelle, bon, d'abord ça a été un temple païen, on va l'appeler comme ça, hein, un temple païen, qui a été instauré pour les entités païennes et les gens dont se recueillaient, ou s'ils étaient sauvés, ils se recueillaient, s'ils n'étaient pas sauvés ou s'ils étaient en difficulté, ils devaient maudire certainement ces divinités. À la suite de l'apparition de la Vierge, il a été décidé je ne me rappelle plus les dates, mais déjà dans le haut Moyen-Âge, de transformer ce temple en dédiant la Vierge, puisque la Vierge a apparu là, a apparu à cet endroit. En fait, l'apparition est due à une autre légende. À un moment donné, ils ont trouvé à proximité de ce temple une statue de la Vierge. Ils se sont dit, mais quand c'est fait cette statue, on va la mettre en protection, on va la protéger, quoi. Ils prennent cette statue et ils l'amènent à l'église Saint-Pierre de Luzèche. Miraculeusement, le lendemain, les paysans venant faire la vigne, faire leur champ, tout ça, ils ont retrouvé la statue, à l'endroit où était un noyer qui était à proximité de ce temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon, mais ils se disent, là, il y a un problème. Enfin, ils ont cherché à savoir. Ils ont repris cette statue, ils l'ont ramenée à Saint-Pierre. Fermé à clé. Miraculeusement, le lendemain, à peu près au même endroit, ils ont retrouvé cette statue. Puis ça s'est passé 3-4 fois. Et puis ils se sont dit, bon, mais cet endroit, la Vierge veut être là. Il y a ce temple-là, dont on va édifier une chapelle à l'honneur de l'apparition de la Vierge. Certainement la Vierge Marie, puisqu'il n'y en a pas d'autre dans ce qu'on connaît. Voilà, donc c'était pour l'histoire de cette fabuleuse légende de la Vierge qui était apparue comme ça au niveau des divinités.
Après la guerre de Cent Ans, oui. Il y a plein de choses qui se sont passées.
Alors, pendant la guerre de Cent Ans surtout. Pendant la guerre de Cent Ans, bon, mais Luzèche, lui, était bien protégé. La ville de Luzèche, il n'y a plus grand-chose en muraille, mais à l'époque, Luzèche, ils avaient renforcé la garnison et les troupes n'ont pas osé attaquer Luzèche. Par contre, les environs, il y avait les routiers qui étaient des genres de mercenaires qui étaient soit pour les Anglais, soit pour les Français. Et ils n'ont pas hésité de piller les environs. Et ils ont démoli en partie ce temple déjà qui était édifié. Il y a eu de l'argent qui a été donné, parce que je vois, il y a eu des dons si je regarde bien mes documents, en 1275, donc, vous voyez, on était en période de guerre Cent Ans, dons de Saint-Saul pour la réparation de la gleia de la mère et des dieux de l'Aïla. Donc c'était pour la réparation de l'église de la mère de Dieu dans l'île. Après, en 1285, il y a eu un pèlerinage. L'archevêque de Bourges, Simon de Beaulieu, qui, avec l'évêque de Cahors, puisque l'évêque de Cahors était suffragant de... C'était Bourges qui gérait tous les évêchés, puisque Bourges, ils étaient en droit français, puisque nous, ici, on était plutôt moitié anglais, moitié français, puisqu'on dépendait du duché d'Aquitaine. Nous, on était de la Guyenne, on était dépendait du duché d'Aquitaine. Donc, c'était Bourges qui gérait l'évêque de Cahors, qui était venu faire un pèlerinage. Voilà. Il y a eu aussi le problème aussi de l'hérésie cathare où l'usège a été rasé. Bon, on n'est pas là pour parler de l'usège, je vous en parlerai une autre fois si vous voulez. Mais il y avait la guerre de Cent Ans qui arrivait, dont il n'y avait pas d'argent pour restaurer cette chapelle. Et cette chapelle est tombée en désuétude. Il y a eu des pillages, Et la Vierge avait été ramenée, elle avait été protégée. Et à la suite de la guerre, on arrive déjà au 14e, 15e siècle, maintenant. La France était en ruine, la région était ruinée par la guerre de Cent Ans. Et vers la fin du XVe siècle, début du XVIe, on a eu un évêque, Canfan de Luzèche, Antoine, qui était un fils de Guillaume, baron de Luzèche, et qui lui était évêque de Cahors, et qui a fait le cloître de Cahors. C'est lui qui a bâti le cloître à Cahors. D'ailleurs, si vous rentrez dans le cloître, il y a une porte avec l'armoirie de Luzèche, les armoiries de Luzèche, de Griffon et de Lune. Et quand on regarde l'entrée de la chapelle là, elle est tout à fait dans le même style, c'est-à-dire en gothique flamboyant, que le cloître de Cahors. Donc maintenant, je crois que ça vaut le coup de remonter, de quitter les bords du Lot et remonter sur la chapelle.
Nous avons quitté la rivière et nous sommes maintenant au pied eh bien, de la chapelle. Alors, reprenons son histoire, si vous voulez bien.
Je vais vous raconter une autre légende. Au XIe, XIIe siècle, des bateliers étaient en perdition. Là, ils se retrouvaient vers les Balmes, par là. Et puis, le capitaine de la gabarre, il voyait mal partir sa gabarre qui partait en travers du courant. Et dit, si je me sors de là, je fais une chapelle en l'honneur de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Miraculeusement, il s'en est sorti avec son équipage. Et ce monsieur, il a tenu parole, et soi-disant, c'était lui qui est au début de la construction, à la suite du temple, de cette première chapelle qui a été édifiée, donc autour du XIIe, XIIIe siècle. Si on passe derrière la chapelle, bon, on ne va pas passer là. On voit dans les murailles encore des anciens murs qui ne sont pas du tout bâtis de la même façon, dans une autre d'autres structures de bâtiments, d'autres appareillages de pierre. Ensuite, bon, il a été édifié. Puis pendant la guerre de Cent Ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce temple est tombé en désuétude et puis a été même détruit par les vandales, les troupes de routiers qui étaient dans le coin. En 1504, l'évêque de Cahors, qui était Antoine de Luzèche, avait les compagnons pour pouvoir faire le cloître de la cathédrale. Et il a fait certainement rajouter des pièces, puisque dans le cloître de la cathédrale, vous voyez la porte devant, la porte bien ciselée, magnifique. On la retrouve avec les armes de Luzèche, que je vous le rappelle, qui sont de Griffon et de Lune. Actuellement, ce que vous voyez, c'est la partie qui a été finie en 1840. Quand les pèlerinages ont repris. Mais il faut rentrer à l'intérieur de la chapelle pour comprendre la structure. Donc on verra les origines des bateliers. Vous allez voir à l'intérieur des bateaux suspendus, des bateaux de ligne, des gabarres qui sont suspendus sur le plafond de la chapelle en l'honneur des bateliers. Et donc vous avez Notre-Dame de Lille, dont le pèlerinage était situé autour du 15 août pour l'Assomption, quoi. Maintenant, il ne se fait plus parce que les gens viennent moins en pèlerinage, donc ils ont abandonné ce pèlerinage. Par contre, nous avons deux vierges. Nous avons Notre-Dame de Lille, mais aussi Notre-Dame de Fatima. La communauté portugaise, qui est à la suite de la révolution du Portugal, la fameuse révolution des œillets, je pense que ça s'appelait, et pour ne pas partir à la guerre en Angola, sont venus ici un peu dans toute la région, et à Luzèche, il y avait une usine, et ont travaillé pour l'usine, donc c'était de la bonne main d'œuvre solide et puis vaillante. Et leur Portugal leur manquait. Et les Portugais, la nation portugaise, c'est une nation très pieuse. Et une famille de Portugais, qui était aux alentours de Fatima, a ramené la statue de la Vierge de Fatima et l'a implantée sur l'aile gauche de Notre-Dame de Lille. Ce qui fait que nous pouvons prier pour Notre-Dame de Lille, nous les Luzécois, et puis nos amis portugais viennent à côté de nous, ils vont prier pour Notre-Dame Fatima.
Alors j'ai lu sur un papier en préparation de cette interview que jusqu'à 1851, par exemple, il y a eu jusqu'à 6000 personnes qui se déplaçaient ici.
Oui, exactement. Ils ont agrandi la chapelle parce qu'à l'origine, vous voyez, à peu près la largeur de la chapelle était cette partie. Et la partie du fond, parce que vous voyez les fenêtres ici, les fenêtres en gothique flamboyant, on les voit sur les côtés, qui ont été poussées. D'ailleurs, on se rend compte qu'elles ont fendu parce qu'elles ont été un peu manipulées. Et la porte a été déplacée vers l'avant, mais on le verra mieux de l'intérieur. Et cette partie, elle a été agrandie pour pouvoir recevoir tous ces gens.
J'ai hâte d'aller à l'intérieur.
Eh bien, écoutez.
Et nos auditeurs, peut-être, viendront en masse.
J'espère.
Hein, vous allez leur donner envie. Et on a la chance d'avoir la clé, ce qui n'est pas le cas tout le temps. On arrive à la porte de l'édifice.
Il y a des gens religieux qui ont déposé devant la porte, vous voyez, des fleurs, même un crucifix qui est un peu abîmé. Bon, voilà. Donc, tous les jours, on découvre des nouvelles fleurs, des nouveaux crucifix. Donc, ça prouve qu'il y a des gens qui viennent encore vénérer Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Fatima et Notre-Dame de Lille.
On rentre maintenant. Voilà, alors à première vue, c'est assez sobre malgré tout.
Oui, alors cette partie est assez sobre parce que ça a été la partie qui a été faite après 1840. Vous avez des fenêtres ici géminées et en gothique flamboyant, en fait qui se retrouvait plus centré, qui se retrouvait par ici, là, de ce côté-là. Vous voyez, la chapelle, c'était que cette partie-là. C'est-à-dire, elle a été plus que doublée. Donc ça c'était quand il y avait tous ces pèlerins qui venaient, donc ils ont été obligés d'agrandir, pousser ici les murs, quoi. Ils ont poussé les murs, ils ont déplacé. La porte qu'il y a devant, là, elle se trouvait là. De l'emplacement ancien de la porte à l'emplacement actuel, vous avez bien une quinzaine de mètres.
On lève les yeux maintenant et on voit qu'il y a une superbe architecture.
Oui, bien cette architecture, elle a été faite à l'époque d'Antoine de Luzèche. C'est de la même architecture que l'on retrouve au cloître de Cahors, donc qui a été fait par les mêmes compagnons.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? On voit aussi des bateaux qui pendent.
Mais justement, je vous ai parlé tout à l'heure de la légende des mariniers, dont les mariniers vénéraient Notre-Dame de Lille, parce que je ne vous raconterai pas l'histoire du danger du Lot sur cette boucle de Lille. Et donc vous avez ici le premier bateau, le petit là, c'est une gabarre. C'était le genre de gabarre, un modèle réduit qui descendait le Lot. Alors il descendait le Lot, il descendait le charbon, le bois. Certains étaient démontés sur Bordeaux pour faire du bois de charpente. Dans les légendes de gabarre, d'autres remontaient du poisson séché, etc. Parce que dans la région de Decazeville, il y avait beaucoup de mineurs qui étaient origine d'Europe de l'Est et qui mangeaient beaucoup de harengs, de la morue. Un des plats lusécois, c'est la morue, alors qu'on est très loin de l'océan. Pourquoi? C'était les mariniers qui remontaient ça avec leur gabarre par les chemins de halage. Donc cette gabarre figure là. Et ensuite, les bateaux de ligne. Alors pourquoi les bateaux de ligne? Parce qu'on a dit que Notre-Dame de Lille était vénérée aussi par les vignerons. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces vins descendaient par les gabarres à Bordeaux. On ne va pas se moquer des Bordelais, mais ils amélioraient un peu leur vin par les coupages. Mais pour le faire vieillir plus vite, ils mettaient ces barriques de vin dans des vaisseaux de ligne. Vous voyez un vaisseau de ligne avec deux mâts et un beau mât d'artimon devant. Donc, dans les vaisseaux de ligne, ils mettaient ça, ils mettaient ces barriques et ils partaient sous les tropiques, voir la Guadeloupe, enfin, sur les anciennes colonies, sur les îles de l'Atlantique, les îles françaises, et revenaient. Et le vin avait vieilli plus rapidement, donc il était plus facilement vendable. Vous avez notre vaisseau de ligne là qui est magnifique et qui a été donné là-bas, qui est un joli trois-mâts là, vous avez. Magnifique.
Ah oui, il est magnifique. Il est grand en plus.
Famille de Luzèche. Oui, il est beau celui-là. Hein.
Oui. Alors sur les murs, vous me dites.
Notre-Dame, il fait qui reconnaisse un jour que je l'aime et que je me donnerai à lui, Rolanda.
Donc ce sont des graffitis.
Ce sont des graffitis, des vœux des gens. Dans les vœux des gens, il y a beaucoup de personnes dont le mari était parti à la guerre ou le fiancé était parti à la guerre. Donc ces graffitis-là, C'est des implorations de pauvres gens qui avaient juste le crayon pour pouvoir marquer, pour implorer à la Vierge de sauver ou soit leur mari, soit pour sauver leur amour, soit...
Et il y en a certains, on voit, ils sont tout frais, mais il y en a des très anciens,
j'imagine. Il y en a des très anciens, vous voyez, oui, oui. Souvenir de l'usage, le 15-8-1918, vous voyez. Jacques, j'arrive pas à lire le nom, pour remercier la Vierge de l'avoir sauvé certainement de la guerre.
Et il y a aussi des ex-voto.
Oui, alors ces ex-voto, ils sont sortis pendant les processions.
On voit qu'ils ont vécu, le fait est. Alors, quelques mots maintenant sur les statues.
Oui, ben Notre-Dame de Lille est une statue en bois qui a été peinte et dorée. Elle a été restaurée dans les années 50, puis remise à cet endroit-là, où les gens venaient vénérer pendant les pèlerinages.
Et maintenant, je crois que c'est la statue de Fatima. Ah oui, effectivement.
Notre-Dame de Fatima, que des dames portugaises ont ramenée du Portugal. Au mois de mars ou au mois de mai, je ne me rappelle plus très bien. Enfin, au mois de mars, alors là, c'est magnifique, il faut venir quand il y a cette cérémonie et cette procession. Vous avez toute la partie devant Notre-Dame de Lille jusqu'au croisement de la route, un champ fleuri. La route est fleurie par des fleurs naturelles. Et ces Portugais portent la Vierge sur l'épaule. D'abord, il y a une messe ici. Ensuite, font le tour de la chapelle. En racontant des prières, en citant des prières, vont jusque là-bas sur la route, qui quand même a presque plus de 150 mètres, là, et reviennent pour remettre la Vierge ici, à cet emplacement. Évidemment, après, il y a quelques offrandes, puisque les Portugais sont des gens très généreux, ils viennent pour vous remercier, ils font des petites collations. Et avant le Covid, le dernier pèlerinage des Portugais, deux bus du Portugal sont venus ici à Luzèche, pour justement assister les Portugais qui sont maintenant lusécois, mais pour venir ici honorer la Vierge.
Mais amis portugais, si vous entendez cette émission, vous savez que vous pouvez venir à Luzèche.
Ah, mais oui.
Alors, petite question, elle n'est pas ouverte tout le temps, cette chapelle ?
Non, non.
Mais
non,
comment on fait si on veut y pénétrer ?
Il faut, vous téléphoner, soit vous téléphonez à Marie, et puis à Marie Drouillet,
à la
médiathèque. Et elle vous dira ou elle me téléphonera. Ou... Donc je suis toujours prêt, moi je suis prêt, disponible à raconter l'histoire de Notre-Dame de Lille. Et j'espère l'améliorer.
Merci beaucoup monsieur pour cette belle visite et toutes ces informations. Un petit mot pour la fin ?
C'est surtout moi qui vous remercie. Enfin moi et l'association que je représente qui vous remercie. Ça a été très sympa et puis j'espère que cette visite va permettre à des gens de venir découvrir cette chapelle. Et puis bon, je suis à leur disposition s'ils veulent amplifier l'histoire de Notre-Dame de Lille, je suis à leur disposition et à répondre à leurs questions.
Donc on rappelle, pour ce faire, il suffit de demander à la dame qui est à la médiathèque, c'est ça ?
À la médiathèque, voilà, Madame Marie Drouillet, qui elle transmettra le souhait des gens.
Merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie.